Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est donc de retour en onde. Je vais laisser mon collègue Marc-Antoine nous faire une chronique sur la question culturelle, identitaire en Australie, notamment en lien avec la fête nationale australienne. À toi, Marc-Antoine.
Merci pour l'introduction, Enzo. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est politique, bien qu'il y ait des aspects historiques. L'idée pour la chronique m'est venue parce que, à la base, avant de faire des études en politique, j'étais étudiant en histoire au cégep. Donc, on va parler de colonialisme et du récent déboulonnage de certaines statues liées à cette époque. Parce qu'on sait qu'il y a souvent des personnages controversés pour leurs actions en lien avec leur époque. En Australie, qui est un pays membre du Commonwealth et membre des Cinq Yeux comme nous. Les Cinq Yeux, c'est une agence de renseignement États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie qui partagent leurs renseignements. Donc, pour ce qui est du contexte, c'est qu'à la veille de la fête nationale du pays qui avait lieu le 26 janvier, des statues de James Cook et de la reine Victoria marquant le passé britannique de l'Australie. C'est une colonie qui a servi de prison pour l'Empire britannique. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Québec, l'épisode notamment des rébellions des Patriotes, ça a été une colonie pénitentiaire où ce que les Patriotes ont été envoyés en prison. Les deux statues, celle de James Cook et de la reine Victoria, ont été endommagées à Melbourne. Melbourne est situé à 680 km de Canberra. Pour vous donner une proportion, une image de la distance, c'est près de 4 fois la portion au vélo d'un Ironman qui est 180 km, comme mon collègue Jérémy mentionnait dans sa chronique sur les élections de Taïwan. Dans le cas de la statue de James Cook, celle-ci a été coupée au niveau des jambes et sur la base où le monument était inscrit. Écrit les mots suivants, la colonie va tomber. Pour la statue de la reine Victoria, sa statue a été barbouillée de peinture rouge. Dans le fond, la fête nationale en Australie marque l'arrivée des colons européens dans le port de Sydney en 1788. Par contre, pour certains, elle est considérée comme le jour de l'invasion, ce qui crée une certaine division, notamment au sein des militants. Parce que les positions se résument en deux camps. Le premier camp souhaite que les personnalités coloniales soient reconnues. À l'opposé, le deuxième camp s'oppose à la reconnaissance des personnalités coloniales en raison des actions commises par les figures colonisatrices. Par contre, la population australienne a une position beaucoup plus nuancée que les militants avec une vision très manichéenne. Donc, il y a moins de côté d'aspect polarisant. En ce sens, elle souhaite garder le nom et le jour férié lié à la fête nationale tout en démontrant une certaine ouverture sur la date. Par exemple, Pat Cummings, une vedette locale, a appelé au maintien de la fête nationale tout en invitant fortement à changer la date pour que tous les groupes formant la population australienne soient inclus. Ici, je mets des guillemets. Nous devons avoir une fête nationale, mais nous pouvons probablement trouver un jour plus approprié pour la célébrer. En réaction au déboulonnement des statues, la première ministre de l'État de Victoria, c'est l'État le plus au sud quand vous regardez une carte de l'Australie. Madame Jacinda Allen a affirmé que ce type de vandalisme n'a pas sa place dans notre communauté. Je relancerai mes collègues si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
Merci Marc-Antoine pour ta chronique bien intéressante. C'est une question qui est intéressante, le déboulonnage des statues par rapport à une histoire ou une culture qui serait réactionnaire par rapport à un présent qui tendrait plus vers le progrès. C'est des choses qu'on entend même en Europe, au Canada, où cette question-là du déboulonnage... Parce que au Canada aussi, hein, à Montréal ou dans d'autres villes, il y en a des statues qui sont bien problématiques, hein, qui rappellent l'esclavagisme ou le colonialisme. Mais la situation, c'est comment... Si les gens qui déboulonnent des statues, leur acte définit une intention de vouloir changer une condition, c'est-à-dire la condition des personnes autochtones en Australie par rapport à un pouvoir ou par rapport à une situation qui les discriminerait ou les exploiterait. Mais la question, c'est est-ce que le fait de déboulonner des statues, est-ce que le fait de s'attaquer à cette mémoire, entre guillemets, ça changerait la situation des personnes autochtones en Australie? C'est là toute la question. Il y a eu un vote, il y a quelques temps, en Australie, un référendum par rapport au droit et à l'émancipation des personnes dites aborigènes. Et le peuple australien a voté en majorité non au sein de ce référendum pour le développement des droits et de l'émancipation des personnes aborigènes. Donc je pense que la lutte, elle doit plus se faire au sein du système lui-même. Car s'il y a une exploitation des personnes autochtones en Australie, d'ailleurs, il y a la situation à peu près similaire au Canada, hein, avec l'exploitation des personnes autochtones ou leur restriction d'accès à certains biens et services, de services primordiaux. Je pense que c'est le système en lui-même qui fait qu'il y a cette exploitation et cette discrimination. Alors oui, on peut... je pense même que c'est un débat intéressant. Est-ce qu'il faut supprimer ou non ces statues? Mais je ne pense pas que le fait de déboulonner ces statues aura un impact sur le réel, aura un impact sur la condition et les situations que vivent ces personnes-là. C'est plus une structure sociale qui détermine cette situation-là, je pense. Je vais laisser la parole à Noémie, qui avait quelque chose à rajouter.
Oui, en fait, là, c'était pour revenir un petit peu sur le référendum en Australie qui n'avait pas passé en mi-octobre 2023. Ça avait fait beaucoup jaser, là, notamment, il me semble bien que c'était l'ONU là, qui avait déploré un petit peu le fait que ça n'ait pas passé. Mais il y a eu plusieurs raisons, justement, là, à ça, notamment la question par rapport au fait est-ce que c'était le bon moyen pour justement remédier à des années et des années d'injustice pour les droits des aborigènes. Fait que c'est une question, ma foi, très intéressante, mais qui est quand même très, très pointue.
Juste pour continuer sur ce que ma collègue disait, c'est effectivement l'ONU qui avait, à la suite du référendum, un peu plus ou moins critiquer la décision, en fait, le refus lors du référendum. Puis pour revenir sur ce que Enzo disait, il y a notamment, effectivement, il y a des figures problématiques au Canada, notamment Johnny McDonald, que la statue avait été déboulonnée il y a 3 ans. Je pense c'est qu'ils avaient parlé de la réinstaller, mais dans un autre endroit, parce que à ma connaissance, elle est au centre-ville de Montréal, ce qu'on appelle la place du Canada. J'aimerais aussi revenir juste sur un dernier point que mon collègue Enzo a dit. Effectivement, je partage ton point de vue que, notamment, je pense pas que le déboulonnage de statues va nécessairement apporter un changement. Et à la situation, comme Enzo l'a si bien expliqué, c'est d'ailleurs une structure, c'est souvent une structure sociale qui est la cause.
Oui, c'est ça, je pense que c'est là-dessus qu'il y aurait des choses à redéterminer. C'est vrai que le vote qu'il y a eu en Australie est assez alarmant, hein, parce que ça prouve qu'il y a une réconciliation qui est assez morte, hein. C'est triste de dire ça comme ça, mais ouais, il y a vraiment une scission entre les personnes natives de ces territoires-là, les personnes qui sont les descendants des personnes ayant colonisé ces territoires-là. Mais je pense que justement, il faudrait qu'il y ait une... Peut-être que c'est au niveau démocratique un accès en fait total sur les décisions démocratiques, que ce soit politiques, économiques ou au sein même des entreprises. C'est ça, une espèce d'accès total à la démocratie pour laisser aussi une place fondamentale aux personnes autochtones dans les décisions et dans les choix de ces territoires-là. Et je pense que ça. Et cette bataille vers ça aura une certaine impact dans le réel. Je vais laisser la parole à Noémie.
Oui, merci. En fait, là, c'est ça. Moi, j'avais rédigé un article, justement, que vous pouvez retrouver sur le site de Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke. En fait, là, selon mes recherches, le rejet, justement, du projet de la voix, qui était le projet du référendum, c'était des inquiétudes, notamment liées là, au manque de clarté puis de détails par rapport à la proposition, qui était vraiment l'inclusion d'un organe de consultation pour les aborigènes. Mais également aussi, là, comme je le disais tantôt, là, des doutes par rapport à l'efficacité de cet organe-là à résoudre les inégalités systémiques des peuples autochtones en Australie.
Bien, merci Noémie. Marc-Antoine, est-ce que tu avais quelque chose à compléter par rapport à ta chronique ou est-ce qu'on va conclure là-dessus?
On va conclure là-dessus. Je vous remercie de votre participation. C'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs ont apprécié.
Eh bien, merci à toi. J'espère également que nos auditeurs ont apprécié. On va revenir sur une courte page de musique et on sera de retour en ondes dans quelques instants pour la chronique de Noémie sur le verdict du procès civil pour diffamation de Donald Trump. À tout de suite.